bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bienvenue avec Lila Kadobudani.
Bonjour à tous.
Marina Rollman.
Bonjour.
Daniel.
Ah, bravo toi.
Tanguy Pasturo sera là tout à l'heure. Il en manque un.
Ça a changé.
Ça sympa avant. Et nos invités sont Anne Charrier et Pascal Hébert. Soyez les bienvenus, on est toujours ravis de vous accueillir. C'est la première fois qu'on vous accueille ensemble.
Ouais, c'est vrai.
Vous êtes chacun venu pour des projets différents.
Une cinquantaine de fois.
Ensemble, vous êtes...
50, non.
Non, mais on aime. Quand on aime, on ne compte pas. Vous venez nous parler de Maman à tort, cette série qui passera le 23 mai, mercredi prochain, à 20h55, sur France 2. Issue d'un roman, c'est ça? C'est un livre, à la base?
C'est un roman de Michel Bussy, oui.
Que vous avez lu pour préparer la série,
non,
ou vous avez juste lu l'adaptation,
que
travaillé.
J'ai souhaité ne pas lire parce que le
personnage. Je n'ai pas le temps.
Non, moi, j'ai la flemme.
J'ai une vie,
pas...
moi, monsieur.
Dans les fiches.
J'ai un vrai travail.
Vous avez de la chance.
Non, pas du tout. Non, il se trouve que le personnage que j'interprète est très éloigné de la fiction.
La commandante.
Commandante Aubray.
Voilà.
Qui s'appelle Ogresse dans le roman. J'ai quand même fait une petite enquête,
hein.
Je ne suis pas non plus.
Ah oui, comment on t'oblige.
Mais il est très éloigné de celui de la fiction. Adapter, c'est trahir, mais en même temps, parfois, trahir, c'est compliqué. Donc, pour se faciliter la tâche, il vaut mieux pas lire le truc.
Très bien, joli. Bien expliqué, en tout cas. Ouais, franchement, je respecte sa non-lecture.
Ouais. Donc, je connais des feignants qui n'ont pas autant
Pascal.
D'imagination.
Maman, attends. Et donc, est-ce qu'on l'a fait ou pas, cette émission?
Elle est bien partie, en tout cas.
Moi, je suis pourtant qu'on y est.
Maman, attends, papa n'est pas là. Si on parlait, c'est vacances.
Maman, attends. En fait, il y a deux enquêtes qui sont menées en parallèle. Des enquêtes de police. Vous êtes tous les deux, vous travaillez tous les deux ensemble dans un commissariat. Donc il y a une enquête, plusieurs enquêtes même qui sont faites sur soit des vols ou des meurtres, et puis ce petit enfant qui est pris en charge par un psychologue. Et là il y a comme une enquête aussi qui se déroule autour de ce petit enfant qui a 4 ans et qui ne fait que répéter que ses parents ne sont pas ses parents, sa maman n'est pas sa maman et qu'il a une autre maman. Et là ça commence à intriguer les responsables, les policiers que vous êtes. Et en même temps vous dites, est-ce que c'est vraiment un dossier, on a plus urgent à faire.
Oui, et puis c'est l'imagination d'un enfant. C'est ça, Malone.
Bon. Et puis il n'y a rien de concret. Il
ouais.
n'y a que la parole d'un enfant et un psy qui s'avère être beau gosse et donc l'intérêt est décuplé, mais elle n'a rien de concret.
Pour la commandante, l'intérêt
oui,
est décuplé.
Oui, pour la commandante, oui. Qui est un peu désespérée en plus, accessoirement, mais le fait est qu'elle n'a rien, c'est quand même une grande pro et elle se dit, mais j'ai rien sur laquelle. Et puis elle entend la voix de cet enfant et il y a quelque chose qui se déclenche de l'ordre de l'instinct, du cerveau reptilien et qui va l'amener. Qui va l'amener à...
Pascal Hébert. Le café, c'est cadeau.
Et un café renversé, si on peut avoir éventuellement une nappe en papier pour Anne Charrier qui vient juste d'inonder. Il faut reconnaître, Pascal Hébert, que vous n'en faites pas une pour aider Anne Charrier.
Non, je vais expliquer. Il commente à côté de moi. Comment à côté de moi, genre, j'ai jamais entendu parler aussi intelligemment.
Non, mais le truc reptilien,
je ne savais pas qu'elle en était capable.
À 11h05, à 23 mars, c'est fort.
Parlez-moi de votre personnage, puisque vous n'avez pas l'air au courant, Pascal Hébert.
Alors, c'est un personnage...
Qui s'appelle Papy.
et en fait, c'est un flic, finalement.
C'est bien décrit, hein.
C'est bien décrit. C'est ce que j'aime dans l'univers de Michel Bussy.
Non, c'est un... Alors lui, il a même pas lu le script. C'est extraordinaire.
Ah non, d'ailleurs, j'aimerais bien regarder la série.
On a les DVD roulés.
Ça passe le
23 mai, très bien. C'est un personnage qui est bon. J'aime bien parce que c'était quelqu'un qui est un peu au bord de la rupture, qui
Merci,
demande à quoi ça
Pascal,
sert.
Merci donc, on va revenir à Anne Charrier parce que c'est important. Parce que ce rôle vous a valu le prix de la meilleure actrice au festival Série Mania qui s'est tenu à Lille en avril et début mai dernier.
Mais oui.
J'entends de la musique. J'entends de la musique, je rêve.
C'est le téléphone de Daniel, ça peut arriver.
D'accord.
Nous sommes toujours sur Carbone 14.
Et tout de suite, la fesse.
Donc recevoir un prix de meilleure actrice, il y a tellement d'occasions de vous remettre des prix et de couronner votre succès et votre talent. Sur ce coup-là, vous avez été surprise, vous avez été...
Bah oui, j'ai été surprise. Non, mais il faut savoir que quand même, j'ai un certain âge, même si ça ne se voit pas.
Non, ça
ne
se voit pas.
Mais bien sûr.
Vous êtes majeure, en tout cas.
Oui, je suis majeure et je n'ai jamais rien reçu, mais même pas une image à l'école. Et là, il se trouve qu'en une année, je reçois... un prix d'interprétation à La Rochelle, un prix d'interprétation à Cérimania. Je suis aussi accessoirement
au Molière.
Donc du coup, c'est oui, tout est surprise, plutôt heureuse, mais.
Et Molière le 28 mai, vous y serez ou vous êtes sur scène ou en répétition?
Ah, j'espère que j'y serai. Je serai en tournage pendant la journée, mais j'ai.
Faut
je...
tout pour être au Molière.
Ah ouais, bien sûr.
Pour en attendant, Bojangles.
Pièce dont on avait parlé.
Qui tourne
ici,
encore, qui joue encore.
Alors, vous la finissez cette semaine.
Moi, je termine samedi. C'est Julie Delarme qui me remplace jusqu'à fin juillet. Ah, yeah. Et ensuite, on part en tournée à partir de fin septembre.
Mais c'est vrai que c'est une pièce qui avait été, qui est bouleversante, ouais. Extrêmement bien interprétée sur scène. Vous êtes tous les trois. D'ailleurs, comment ça se passe quand on est trois sur scène et qu'il y en a qu'une des trois
qui est bonne,
nommée.
Didier Brice, Victor Boulanger, il l'a vu.
Didier Brice, Victor Boulanger, ils sont exceptionnels.
Absolument.
Ils sont nommés ou pas?
Non, ils sont pas nommés.
Pascal Albert a raison.
Qu'est-ce que c'est que ces questions?
Non, pas du tout. Mais non, mais alors, la pièce est axée autour du personnage de la mère. Donc forcément, les regards, je pense, sont plus tournés vers elle. Et puis, c'est le jeu... Moi, je suis ravie d'en être, mais j'ai aucune illusion sur la façon dont les choses se font.
Et ils sont contents. Et ils sont contents que vous y soyez.
Mais
aussi,
oui, ils sont très contents. Ouais. Je crois qu'ils. Oui.
En attendant, Bojangles, si vous avez l'occasion encore, que ce soit ce soir ou demain, puisque c'est les deux soirs où vous êtes encore sur scène, vous, Anne Charrier. Sinon, la pièce va continuer toujours au Théâtre de la Pépinière à Paris. Il y a une tournée qui est prévue.
Il y a une tournée qui est prévue à partir de. Il est 11h, hein. Je joue au théâtre le soir. Non, excusez-moi. Je suis fatiguée.
Donc, il y a une tournée qui est prévenue et prévenue.
Oui, à partir de fin septembre et jusqu'à mi-décembre et encore quelques dates en janvier. Puis après, moi, je passerai au théâtre.
Moi, j'ai adoré la série, on l'a pas encore dit. Moi, j'ai vraiment adoré cette série. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de la voir en entier.
Ouais.
Et en fait, heureusement, parce que si j'avais dû m'arrêter au bout de deux épisodes, ça aurait été un drame.
Ça enlève rien à sa qualité.
Je sais bien, mais moi je voulais voir la suite absolument. Ah bah oui, je voulais savoir ce qui se passait pour dire que c'est tellement haletant que quand on se demande voilà ce qui va se passer déjà entre dans vos histoires personnelles, parce que c'est ça qui est aussi très développé. Et puis ce petit garçon se casse à Deauville.
Extrêmement bien joué d'ailleurs le petit.
Formidable.
Tom Dornano.
Formidable. Ouais. Ça c'est vraiment un vrai cadeau de casting quand on a un enfant de cet âge-là qui donne autant et qui est aussi
juste.
Solaire, lumineux, juste, mystérieux. Il emporte le. Il est bien meilleur que Pascal Elbé, par exemple.
Mais il faut quand même que les gens sachent, il a 17 ans en vrai. Hein.
Oui,
c'est pour ça qu'il a.
Mais il en paraît 4 ans. Il en paraît 4 ans l'image.
Il en paraît 4 ans, mais c'est vrai que c'est à l'écran, c'est magique.
On peut compter sur Pascal, c'est ça qui est bien.
Non, mais alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs intrigues. Il y a d'abord des histoires personnelles, des destins personnels, des histoires amoureuses et aussi des chemins personnels. Et puis l'intrigue à la fois policière autour de certains braquages et puis la question de savoir est-ce que cet enfant a été kidnappé ou pas. Est-ce que c'est simplement son imaginaire qui dit c'était pas ma maman. Ce que je pense plusieurs papas ou mamans ont dû entendre.
Quand tu fâches un enfant, généralement, ouais, c'est ça qu'on dit.
Je t'aime pas, t'es pas mon papa, t'es pas ma maman, et ainsi de suite. Est-ce que si chaque fois il fallait déclencher une enquête policière, les commissariats seraient débordés par ce genre d'enquête. Non, et puis il y a du rythme et comme tu le dis, Leïla, chaque fois à la fin de chaque 52 minutes, on a envie de voir le suivant.
Et oui, c'est là où on est tenu. Et je me demandais, est-ce que les flics sont nécessairement malheureux dans leur vie, parce que vous êtes tous les deux des exemples de flics où c'est quand même pas
avec
le bonheur.
Avec une vie personnelle
très solitaire. C'est des personnages très solitaires, tous les personnages qu'on interprète.
Bah, vous savez, on a tourné avec des... C'est souvent comme ça, pour arrondir leur fin de mois. Il y a souvent des vrais flics qui viennent faire de la figuration, donc ça nous permet de les côtoyer, de parler avec eux. Imaginez un peu les flics du Havre. On n'est pas dans la... C'est pas non plus New York Police Blues, là, c'est les flics du Havre. Donc c'est des gens, ils ont un courage pour moi, et on parlait souvent, évidemment, au quotidien avec eux. C'est assez remarquable, quoi, de traverser ce quotidien. Ils n'ont pas vraiment de moyens, ils n'ont pas vraiment d'encouragement, on va dire, de la hiérarchie, et il continue quand même avec abnégation et à faire leur devoir. Moi, je suis assez surpris, et je trouve aussi l'univers de Michel Bussy, pour parler plus sérieusement. Je pense que dans une première vie, il était géographe, je crois, non?
Il était sociologue et géographe.
Voilà, et du coup, il met dans ses polars, il y a toujours cet aspect social qui revient. Et souvent, et c'est ce que j'aime dans les séries, quand elles sont bien racontées, bien écrites, c'est que souvent l'intrigue est un prétexte pour raconter des personnages. C'est pour ça qu'on s'attache, je crois, aussi à cette histoire, parce qu'on voit le quotidien de ce commissariat. Et on n'a pas essayé de lui donner une espèce de voilure, vous savez, les flics cow-boys. Non, on voit des gens qui font ce qu'ils peuvent, pour des flics de proximité. Et c'est ce qui fait que, je pense aussi, on rentre dans cet univers-là, ce qui sont débordés comme finalement le spectateur peut l'être. Et je trouve, et là, je rends hommage, vraiment hommage au réalisateur, qui est François Vell, avec qui, moi, j'avais déjà fait Une chance de trop, d'un autre romancier à succès, qui était Arlan Coben. Ouais. Et lui, et François Vell, a réalisé avec beaucoup d'élégance, et il est très malin. Il a réussi à tendre le film, mais quand même à respecter l'aspect humain.
Et il a participé à l'adaptation aussi, au scénario.
Complètement.
Il a réalisé et travaillé sur l'écriture. Je tenais à citer quand même quelques-unes des comédiennes et quelques-uns des comédiens autour de vous. Anne Charrier, Pascal Elbé. Il y a Sophie Quinton, Camille Lou, Samuel Tess, qui est donc le psychologue beau gosse. Gilles Alma, qui est donc le policier beau gosse.
J'aime bien. Je demande toujours maintenant.
Sébastien Livessard, Tom Dornano, qui est donc l'enfant de 4 ans, qui est bouleversant dans son interprétation. Emmanuel Bonamy, Xavier Austen, Ibrahim Coma, Samira Lachab, Marie Montoya, Bertrand Constant et Marc Prin, entre autres, qui est ce juge aussi qui se demande s'il a bien fait de vous confier ou pas l'enquête d'un casse, puisqu'il y a deux enquêtes en parallèle, l'enquête d'un casse qui s'est déroulée à Deauville dans une bijouterie, et puis cette enquête autour de ce gamin Malone pour savoir si oui ou non ses parents sont ses véritables parents. Ça s'appelle Maman à tort. On vous le recommande vivement. C'est sur France, et pas uniquement parce que c'est sur France 2, mais c'est sur France 2. Et c'est à 20h55, mercredi prochain, le 23 mai. Tom, j'espère que, contrairement à nos invités, vous avez compris pourquoi ils étaient là.
Bien sûr, moi j'ai lu le scénario. Ça, Pascal? Alors, non, mais le pitch est très simple. C'est un enfant de 3 ans et demi, 4 ans, qui affirme que sa mère n'est pas sa mère.
Ah merde.
Moi j'ai plein d'enfants, j'ai plein d'amis avec des enfants de 4 ans. Eux, c'est l'inverse. Ils disent, cet enfant en train de manger du sable? Non, c'est pas le mien. Je vous jure, je ne l'ai jamais vu. Est-ce qu'on peut croire un enfant de 4 ans? Des fois, les enfants, ils nous mettent dans des situations. Nettement, un gamin un peu con qui te dit t'es pas mon père en plein supermarché, ça peut vite partir en alertant les bancs et finir au poste pour lui avoir refusé des Kinder, tu vois. Des fois, je te jure, j'ai honte de mes enfants. Bon, l'avantage, c'est que j'en ai pas, mais moi, j'ai honte des enfants des autres. Les enfants des autres, c'est compliqué à supporter dans le train. C'est l'enfer. T'es bloqué dans un espace fermé et en plus, on va dans la même direction. Week-end dernier, j'étais dans le sud. Il se trouve que, dans le train, j'étais en première. Ça va, c'est à 5 euros près, entre la première et la seconde, voilà. Il y avait 5 euros. Quitte à aller à Marseille, autant avoir une prise électrique à portée de main. C'est ça que je me suis dit. Et là, je me retrouve carré de 4 avec un couple et leur fils de 4 ans qui regardait La Reine des Neiges sur l'iPad, mais sans casque.
Et en plus, la nounou des temps modernes, c'est l'iPad. Évidemment.
Et en plus, il mettait des coups de genoux et il était à côté de moi, c'est très fort. Et il a regardé le film 2 fois et demi. Et non seulement le son était très fort, mais en plus, il commentait tout ce qu'il voyait. J'avais La Reine des Neiges en audio description, mais nul. Je le dis, pour moi, les enfants n'ont pas en première classe, ni même en seconde. Un enfant dans le train, c'est sur le toit avec des sangles ou dans le couloir entre deux valises. Non mais faut crever l'abcès. Il y a un moment, il y a des fois, on a honte de nos enfants. Je vois bien dans le regard de mes amis qui en ont que finalement c'est pas ce qu'ils avaient prévu. Tu pars plein d'espoir, tu sais, t'as un couple référent qui a eu de la chance, mais toi t'as Alien versus Predator. Après en plus ils grandissent, tu sais, vient l'âge des caprices. Pour nos auditeurs qui ont pas d'enfants, un caprice c'est quand tu fais une très grosse colère pour obtenir quelque chose, mais généralement ça fonctionne pas. Et les cheminots savent de quoi je parle. Et puis puis après, vers 4 ans, tu sais, ils se mettent à vouloir avoir des conversations. Est-ce qu'on peut en parler? T'as déjà essayé de parler avec un enfant de 4 ans? Faut le dire, elles sont nulles, leurs conversations. L'histoire est très longue. La chute est pourrie. C'est jamais les bons mots dans le bon ordre. Il y a aucun point de vue, aucun argument. Quand un enfant se met à parler. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. C'est quand un enfant se met à parler, c'est le festival de Cannes de la honte. Dès que tu croises quelqu'un avec un physique bizarre, c'est le toboggan de la connerie. Papa, le monsieur, il a un gros nez, il parle bizarre, il sent le vin. Comment t'expliques à Daniel Morin que c'est pas ce qu'il a voulu dire, l'enfant? Non, mais socialement, ce sentiment de honte, c'est compliqué à assumer. Et puis attends, on peut faire quoi d'ailleurs? Moi si j'ai honte, je vais pas abandonner un enfant sur le bord de la route, parce que j'en peux plus. Je sais que c'est pas bien d'abandonner un enfant sur l'autoroute, mais si je le laisse avec le chien, il sera moins seul et ils se connaissent déjà. Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et puis pire, quand le gamin il te dit en pleurs, j'ai envie de faire caca en pleine rue. Et le pire, c'est, ça y est, j'ai fait caca.
Non.
Moi, je l'ai fait à ma mère. Elle était furieuse. On était à la piscine et j'avais 17 ans. Oh. Bref, vive les enfants. Bonne émission.
Merci Tobias. La bande originale. La vie.
T'as de la chance parce que maintenant c'est ma mère qui me le fait à moi.
Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit qu'Anne Charrier, Pascal Albert revenait dans l'émission.
Et oui, quand je pense à vous, je pense à quelqu'un qu'on a mentionné depuis le début de l'émission, mais qu'on connaît pas vraiment bien.
Vous êtes très très nombreux, donc je suis impressionné. Voilà, et puis en plus, il y a encore plus de monde apparemment de l'autre côté, y compris par tous les blogs. Puis ça me permet aussi de dire un mot sur l'importance aussi du bouche-oreille, des blogs, de toute cette toile, parce que je crois que si mes romans ont comme ça décollé, c'est essentiellement, je crois, par ce bouche-oreille, par une espèce de mouvement de fond comme ça, que personne n'a vu venir, et moi encore moins.
C'est Michel Bussy, l'auteur de Maman a tort, voilà, forcément, on en a parlé tout à l'heure, c'est le troisième plus gros vendeur en France. Ouais. C'est quand même fou, il n'a pas la notoriété d'un Musso et d'un Lévy, puisque c'est eux qui occupent les deux premières places. On l'a dit tout à l'heure, c'est un auteur qui est aussi prof de géo, il enseigne à Rouen, donc il connaît assez bien aussi les territoires, il est ancré dans les territoires.
Et la météo.
Et on évoquait tout à l'heure son succès, c'est vrai que M6 est en train de tourner Un avion sans aile, c'est adapté aussi d'un de ses bouquins, que TF1 prépare Le temps est assassin, donc c'est encore des bouquins de Bussy. Je me demandais, l'écriture série...
Et puis toute l'œuvre classique qu'il a écrite, on m'a appelé. Il y a quand même des concertos,
forcément. Voilà. Aujourd'hui, je pense que
elle
ça va être...
Elle a été bossée en amont, cette émission.
Mais c'est pas son cousin italien qui faisait des grosses voitures, on pouvait rentrer à 40 dedans, c'est ça ?
On sent un gros travail de l'équipe.
T'es bossé en amont, mais on aussi, il n'a pas rapporté le travail.
On bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Pascal. On est foutu, c'est parti, c'est parti.
Bah tiens, Pascal.
C'est vrai que je me suis mis au sport à l'âge de 15 ans.
Non, mais Pascal, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, c'est un peu ça.
T'es sûr ?
Vous êtes présent dans toutes les séries, je trouve, qui sont importantes. Je pense à Baron Noir, je pense au Bracelet Rouge. Ouais. Je pense à ces séries événements. France 2 développe vraiment très très bien la fiction et arrive avec des vrais produits de qualité. Qu'est-ce que ça change pour vous dans votre carrière ? Je crois que vous allez réaliser aussi une série, un programme.
Une short série.
Une short série,
en 4 épisodes.
Ouais.
Qu'est-ce que ça change ? À quel niveau ?
Bah, je sais pas sur.
Financier.
Le regard des autres dans ce métier.
Brut ou net ? Non, qu'est-ce que ça change ? Non, ouais. Je vais vous dire. Il y a un regard nouveau quand on est. Je parle même pas de mon point de vue, mais de mon point de vue en tant que spectateur.
Ouais.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un regard complètement nouveau sur la télé. C'est un support qui, avant, qui était un peu, on va dire, dénigré par nous autres, les gens, entre guillemets, du cinéma. Et aujourd'hui, l'intérêt et la curiosité vient souvent de la télé, des séries. C'est une curiosité nouvelle. C'est une écriture nouvelle qui a un peu bouleversé la donne. Je sais que pendant le festival de Cannes, par exemple, c'est très révélateur, Thierry Frémaux, il y a eu cette espèce de pseudo-polémique où Thierry Frémaux disait...
Sur Netflix
Oui, sur Netflix, mais surtout en disant, finalement, les séries... on ne connaît pas les réalisateurs, on connaît aucun nom des réalisateurs, et je sais qu'il y a quelqu'un qui lui a répondu très, très justement, oui, mais on redonne la part belle aux scénaristes, aux auteurs. Et dans les séries, on connaît les showrunners, on connaît les auteurs, on connaît pas nécessairement les réalisateurs. Finalement, c'est une complémentarité. Tout ce que je sais, c'est que, en tant que spectateur, ma curiosité, et je la partage avec beaucoup de mes camarades, elle vient davantage de l'écriture, j'allais dire, de séries. La dramaturgie dans les séries nous emballe, nous enthousiasme beaucoup plus qu'au cinéma. Aujourd'hui, le cinéma, en tout cas, parfois en France, est parfois un peu frileux.
Oui.
Dans ses thématiques, dans les sujets choisis, la télé devient beaucoup plus audacieuse. Donc pour nous, c'est un nouveau terrain de jeu, évidemment. Mais surtout, c'est un terrain de jeu qui commence maintenant à... On commence à avoir l'expérience, on commence à se rapprocher un peu de ce que font les anglo-saxons. On n'est peut-être pas nécessairement au même niveau, mais il y a une exigence et il y a une écriture qui, pour nous, j'allais dire, nous donne vraiment de nouvelles cartes. Et je suis très heureux de participer à ces séries parce que finalement, quand on partage des choses avec les gens, on parle davantage de télé, de séries que de cinéma.
Que de cinéma. Et est-ce que ça rejaillit sur les propositions qu'on peut vous faire cette fois-ci pour le cinéma ? Parce que quand on vous a vu dans Baron Noir, Les Bracelets Rouges, que ce soit Maman a tort, je pense que c'est aussi l'occasion pour les réalisateurs d'avoir un petit peu plus d'inspiration aussi, de vous voir davantage. C'est au long cours, c'est pas juste 1h30, c'est 6x52, donc forcément...
Oui, c'est un regard nouveau sur ce qu'on peut faire.
Sur votre pratique,
Mais surtout, même les réalisateurs de cinéma viennent de plus en plus faire de la télé parce que c'est l'occasion de faire des choses qu'on n'a plus l'occasion de faire au cinéma.
Les histoires sont meilleures dans les séries.
C'est beaucoup plus développé, comme on a plus de temps.
Ouais,
on rentre plus dans le fond des choses. Et c'est vrai que souvent, Vous avez des sujets qu'on aurait pu faire à l'époque au cinéma, aujourd'hui, qui sont considérés comme anxiogènes ou pas dans l'air du temps. Et les thématiques sont beaucoup plus riches en télé, beaucoup plus approfondies que parfois au cinéma. Mais attention, le cinéma reste le cinéma. C'est pas le même objet de fabrication, c'est un objet magique. Oui. Quand on est sur un plateau,
il faut quand même une bonne histoire pour un bon film. Donc
il faut l'histoire, ouais, comme dirait Gabin, c'est l'histoire, l'histoire est d'abord l'histoire. Mais je trouve que pour nous c'est très jubilatoire de se dire que ça y est, la télé offre enfin quelque chose de...
Des possibilités.
Ouais. Oui, vraiment.
Et pour vous, Anne, on vous a vu aussi récemment dans Prête à tout, qui a cartonné aussi sur France 2, réalisé par Thierry Petit. Là, maintenant, Maman a tort. La dernière fois que je vous ai vu au cinéma, c'était dans Crash Test à Glaé.
Oui.
Est-ce que ça ouvre aussi des horizons sur le cinéma?
Je sais pas, parce que moi, je viens de la télé. Donc je peux pas. Donc mon métier, je le fais. Je sais pas si ça ouvre des. Je sais que la télé a évolué entre le moment où j'ai commencé et maintenant. On a des projets plus ambitieux, plus. On en revient à Michel Bussy, ce qu'il propose là, cet ancrage territorial, ce tissu social, tout ça. Ça, c'est des choses qu'on a effectivement l'opportunité de développer sur 6 épisodes, de façon assez elliptique, mais très précise, très fine.
On n'aurait pas pu en faire un film, parce que là, en l'occurrence, ça dure 3 heures au total. On n'aurait pas pu en faire un... 6 heures même, pardon. On n'aurait pas pu en faire un film. C'est pas possible.
Tout ça délicat, c'est-à-dire...
Non, mais est-ce qu'on aurait raté quelque chose de concentrer tout ça sur 1h30, 2 heures?
Je pense, ouais.
D'accord.
Moi, je pense.
Oui, parce qu'il y a l'amplitude qu'on donne aux personnages, l'attachement aussi, j'imagine.
Oui, ouais. Et puis, les personnages secondaires, le développement qu'on fait des histoires parallèles. Ça, c'est délicat en cinéma. Il faut être beaucoup plus précis, non?
Ça dépend. C'est une adaptation. Oui, c'est vrai qu'on a moins de place pour faire exister les intrigues secondaires. Mais bon, heureusement qu'il y a des bons films qui proposent des histoires tendues et sans rien oublier. Mais c'est sûr que pour le spectateur, on a plus d'espace, on peut l'amener, on peut le prendre par la main.
Pour le travail de comédien, est-ce que c'est le même temps, entre guillemets, ou est-ce que dans une journée, vous êtes obligé de sortir ce qu'on appelle les minutes utiles,
voilà,
les minutes utiles, c'est-à-dire celles qui seront vraiment montées dans l'épisode, contrairement au cinéma où on prend plus de temps pour faire belle lumière,
Ça va beaucoup plus vite la télé. Mais moi je trouve que c'est l'école de l'efficacité aussi. C'est-à-dire qu'il faut trouver très vite. C'est pas la même chose. Au cinéma, on a l'opportunité de chercher, on a ce temps-là pour chercher. À la télé, il faut être plus vite, plus efficace. Au-delà de ça, avec Pascal, on se connaissait bien. François et Pascal se connaissaient bien, c'est-à-dire notre metteur en scène. On a quand même lancé des scènes qui ont été réécrites pendant le tournage. C'est-à-dire que sur une... et ça, on a rarement l'occasion de ça, de pouvoir se laisser aller à une émotion et se dire, mais non, on pourrait faire autre chose. On pourrait proposer autre chose sur leur rapport et qui vont... On a eu cette chance-là d'avoir François aux manettes qui nous a laissé ce temps-là.
Ça sous-tend qu'il y a une complicité aussi par un casting de série. C'est peut-être aussi ça, choisir des comédiens qui, s'ils n'ont pas déjà tourné ensemble, vont avoir rapidement une capacité à...
Une confiance.
Ouais, c'est ça.
Mais tout est question de confiance. C'est-à-dire que le metteur en scène vous fait confiance et que vous avez confiance en votre partenaire, ça vous permet de libérer quelque chose plus rapidement et d'être vraiment sur le fil, sur l'immédiateté, quoi.
Maman a tort, c'est mercredi soir, 2 épisodes, tous les mercredis, pendant 3 mercredis, donc mercredi soir sur France 2. Voici le temps de retrouver Marina Rollman.
Ah bah écoutez, merci Marina.
Alors,
c'est bien qu'on parle de cinéma parce que récemment j'ai appris qu'il existait sur la planète environ 500 000 longs métrages. C'est dingue. Alors oui, il y a les franchises dans le tas, mais disons même sans compter les Fast and Furious, ça fait encore près de 80 films. C'est déjà énorme. C'est très beau. Mais le problème, c'est qu'avec tous ces films qui existent déjà, ça devient compliqué de réussir à raconter les choses d'une manière inédite. Et je l'ai senti en allant voir le dernier opus de la série Avengers Infinity War. Alors pour les gens qui ne voient pas, c'est des films de super-héros qui tendent à réunir un maximum de héros de l'univers comics Marvel pour se battre contre les huissiers ou le glissant. glyphosate. Et donc, le dernier, Avengers Infinity War, tu vois, j'étais obligée d'y aller, parce qu'avec un titre comme ça, tu vois, Infinity War, ça, moi, ça m'interpelle forcément. Mais ça vaut pour tout, hein. Autant le rêve de Daniel Morin, ça me parle pas trop. Autant si vous l'annonciez en disant, et maintenant, Daniel Morin, The Age of Comedy! Là, clairement, tu vois, j'écoute, quoi, il se passe quelque chose. Et donc, avec ce film et le suivant, la franchise Avengers est en train de clore un cycle. Infinity War, c'est l'avant-dernier film avant la fin d'une époque, si vous voulez. Et tu sens que c'est symphonique, ça monte en puissance. Là, en l'occurrence, il y a quasiment 30 super-héros en un seul film. C'est dingue. Iron Man, Spider-Man, les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, Benny Hill, Marthe Villalonga, Jean-Claude Juncker, il y a tout le monde.
Ah ouais, ouais.
C'est incroyable.
C'est dingue. Ça me donne envie d'y aller, là.
Bah oui, non, vraiment, c'est hyper. Jean-Claude Juncker est vraiment étonnant. Et donc, ça devrait être dingue. Et pourtant, je trouve qu'il peine à t'investir émotionnellement.
Ah.
Mais c'est-à-dire, moi, j'ai pas de problème, hein, c'est pas du snobisme envers les films d'action ou de super-héros. Moi, un soir, je suis devant un truc qui s'appelle « Demain, je te dirai hier », un film kurdo-belge qui raconte l'histoire d'un reporter de guerre qui découvre que son chat a une tumeur au cerveau. Une fable néo-réaliste qui parle de la fin d'une certaine idée de la presse, autant que la déconfiture des rapports amoureux dans une postmodernité déchirée, tant par le spécisme que le néolibéralisme. Une œuvre que Leïla Kadour-Boudadi qualifie de « pudique mais exigeante ». Autant le lendemain, je m'enfile des Doritos au surimi devant des super-héros qui s'envoient des lasers, tu vois, c'est pas un problème. Mais là, ce qui me laisse un peu de marbre actuellement, c'est le côté superlatif dans les enjeux. Là, depuis un moment, les films de super-héros, c'est pas, tu vois, ils doivent se battre contre un méchant, ou sauver une ville, ou arriver à l'heure pour un rendez-vous blablacar, il y avait trop de syllabes. Mais donc, voilà, à chaque fois, depuis quelques années, l'enjeu, c'est l'univers. Tout entier. À chaque fois, c'est un gars qui veut niquer tout l'univers. Et les méchants dans les films de super-héros aujourd'hui, ils ont les mêmes objectifs que les mecs qui sortent de boîtes bourrées et qui racontent des bastons qui sont jamais arrivés. C'est les bastons hypothétiques où ils te disent « Franchement, le gars, il te regardait encore une fois comme ça. Je le prenais, je le faisais re-rentrer dans sa mère. Tous les deux, je les momifiais, je les envoyais par FedEx qu'ils aillent niquer sa grand-mère. Je te jure, j'étais à deux doigts. » Avengers, c'est pareil, tu vois. Personne n'y croit, mais t'écoutes jusqu'au bout par curiosité. Et tu te dis, mais ça va où exactement? Et donc, ça se finit dans des scènes de baston. Tu comprends rien. Les types, ils se lancent littéralement des planètes dessus. Ils se lancent des planètes. Moi, j'ai du mal à m'identifier, tu vois. Pas que j'aime pas l'univers à part ça. Alors non, qu'on me fasse pas dire des choses que j'ai pas dites. Non, à titre personnel, l'univers, je trouve ça super. En plus, je l'utilise tous les jours. J'en suis très satisfaite. C'est quand même un des rares trucs qu'Anne Hidalgo nous a pas enlevé. Non, vraiment. Si l'univers était amené à disparaître, ça m'arrangerait pas du tout pour plein de raisons. Typiquement, je viens d'acheter des jolis porte-savons. Si l'univers disparaît, tu vois, où est-ce que je les pose, quoi. Cela dit, ils ont raison. Je comprends la dimension un peu néo-religieuse des films de super-héros. Et c'est vrai que de tout temps, on a eu besoin de mythes comme ça pour comprendre le réel, de récits qui sortent de l'ordinaire, mais qui en vrai parlaient de nos vies. Tu vois, par exemple, Moïse. Si en fait, il s'était appelé Franck. Et qu'il avait pas ouvert la mer en deux, mais genre un compte au CIC. Bon, peut-être on en parlerait plus aujourd'hui, tu vois. Si l'Exode chapitre 14 verset 21, c'était Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la porte de l'agence Guy Moquet. Un passage se fendit entre les canapés de la salle d'attente et les enfants d'Israël entrèrent au milieu des autres clients et prirent un Psychologie Magazine de 2008 en attendant qu'on s'occupe d'eux. Tu te dis en vrai, l'avenir de l'univers c'est quand même plus rigolo, quoi.
La bande originale. Nous allons accueillir tout à l'heure Sébastien Boller, qui est un ancien élève de l'école polytechnique, surtout spécialiste en neurobiologie moléculaire, rédacteur en chef de la revue Psycho et Cerveau, auteur de L'homme qui a hissé le bien aux éditions Robert Laffont et qui participe souvent à La Tête au Carré. On va parler exactement de tout ce qui peut se passer dans nos souvenirs, justement, et les vrais souvenirs, parce que à quand remonte, par exemple, vous qui êtes dans une série où un enfant de 4 ans a de parfaits souvenirs, à quand remonte votre premier vrai souvenir, pas celui qui a été fabriqué par des photos ou par des
On ne sait pas, c'est difficile. Moi, je me suis posé la question.
Ce matin.
Je me souviens, j'ai une image très forte de mon grand-père maternel qui est décédé. C'est pas une histoire triste, hein. Qui est décédé, j'avais 4 ans. Mais cette histoire-là, et c'est pas possible que je l'ai. Ce souvenir-là, ça n'est pas possible que je l'aie.
Donc il y a des chances que ce soit vos parents qui vous l'aient raconté.
Ma mère me dit non. Enfin, on s'est posé la question.
Donc ça, c'est votre plus lointain souvenir de votre vie.
C'est celui dont je me dis qu'il est le plus
Pascal
hypothétique.
Le même, on était dans le même. Non, moi, j'ai un truc assez troublant. Je me rappelle quand j'étais tout petit, j'étais dans la forêt avec mon frère, avec mes parents. Et je me rappelle d'une...
Ils vous ont abandonné, c'est ça?
Quasiment. Et j'avais des cailloux contre un tronc d'arbre.
Non, j'avais des cailloux blancs.
Je me suis rappelé un truc assez bizarre de deux personnes qui viennent s'en prendre à mon père. Et il y a eu une baston. Et j'ai des images assez violentes et assez bizarres. Et pour tout te dire, encore aujourd'hui, je ne sais pas si ça s'est produit. J'en ai jamais parlé ni avec mon frère, ni avec ma mère. C'est assez étrange. mais j'ai ce souvenir qui est là, sans savoir si c'est le fruit de mon imagination, si je l'ai réellement vécu.
Bah, on va en parler avec un spécialiste.
Merci
tout à
Nagui, l'heure. Merci, je serai soulagé.
Ça fera une consultation gratos. La bande originale d'Anne Charrier et Pascal Elbé, ils sont, et d'ailleurs parlons de la bande originale aussi de ce téléfilm, parce qu'il y a des musiques d'abord qui sont chaque fois différentes. C'est pas la même chanson de générique, mais il y a des versions acoustiques. Je pense à Nature Boy de George Benson pour le premier épisode, si j'ai bonne mémoire. Il y a une vanne autour de... Dans la voiture.
Chanson de mariage.
Avec Gilles Alma qui fait un très bon playback. Il chante même.
Ouais, très bien.
Et ça énerve Pascal Elbé à côté parce qu'ils sont en planque au moment où il veut chanter Say You, Say Me. Non, la musique de Maman a tort est bien réussie. Justement, on va vous demander ce que vous écoutiez vous comme musique fin des années 90, par exemple. Anne Charrier était à peine née. Vous écoutez ça à quelle occasion ?
Oh, je l'ai écouté beaucoup. Je l'ai écouté en rentrant de week-end avec les copains. On passait en boucle dans les voitures. Je les salue tous d'ailleurs s'ils écoutent, si jamais ils écoutent. Et surtout, on s'en est servi. La première année où j'ai eu Nicolas Briançon comme professeur, on s'en est servi pour annoncer les Grecs dans la guerre de Troie n'aura pas lieu. On a de Giraudoux où on annonce la sirène des Grecs et on s'était servi de ce. Enfin bon, je vais pas le faire parce que ce sera moche.
De la sirène.
Mais il y a un passage à un moment donné, ouais. Voilà, qui fait. Sirène. Comme une sirène, comme un cri, un truc un peu...
Et dans ces années-là, fin des années 90, Anne, on avait déjà évoqué avec vous votre entrée au conservatoire, mais là, vous obtenez votre premier rôle au théâtre. C'était dans La Nuit des Rois, ouais, de Shakespeare.
Ouais.
Comment ça s'est passé ? C'est un casting ? C'est...
Un casting, un copain qui était régisseur dans une salle. Il me dit... Il y a un rôle qui va... Voilà, il y a une comédienne qui s'en va. C'est une équipe qui marche très bien. Ils ont cartonné à Avignon, voilà. Et je passe l'audition. Et c'est Clément Michel qui joue le bouffon. David Roussel, enfin voilà, qui sont restés des copains derrière.
Vous avez eu le sentiment d'attendre longtemps avant d'avoir ce que vous vouliez dans ce métier ?
Non, j'ai eu l'impression d'attendre longtemps avant de me décider à faire ce métier. C'est-à-dire avant d'avoir le courage de dire non, j'arrête.
Quoi ?
Je faisais de la socio à la fac. Je cherchais. J'étais un peu. Voilà, je m'éparpillais dans plein de trucs.
Vous auriez fait quoi, votre vie, comme carrière ? Enfin, comme métier ?
Franchement, ouais. Rien. Non, vraiment.
Assistante sociale.
Non. J'étais vraiment, je le dis. C'était mal barré. Je crois qu'on choisit pas ces métiers-là par dépit. On choisit ces métiers-là parce que rien d'autre n'est possible. Rien d'autre n'est envisageable.
Dans ces années 90, Pascal Elbé, vous écoutiez. Quel drague.
Si, mais fin. 3 heures.
J'en ai pris quelques vases là-dessus, mais j'en valais aussi. Hein.
Le bilan est positif.
Mais c'était dur à choisir, parce qu'il y en a. Dans les années 90, il y avait quand même, on avait du choix. J'hésitais entre Kezia Jones, par exemple, et Nick Kravitz.
Qui revient avec un nouvel album à la rentrée, d'ailleurs, Kravitz, pour information. Portichet et Glory Box.
Et dans ces années-là, vous, Pascal, vous coécrivez un one-man show. C'est monstrueux.
Ouais.
De Patrice Abou, ouais, vous coécrivez aussi Tout baigne, une pièce de théâtre produite par un certain Nagui.
Sur la fin,
tout à fait.
Sur la fin, qui a connu un grand succès, qui est adapté au cinéma, ouais, absolument, qui est adapté au cinéma. Vous coécrivez aussi Les Voilà, un spectacle à sketch, toujours avec Patrice Abou. Vous avez beaucoup écrit pour les autres.
Oui, c'est comme ça qu'on.
Oui, non, mais après, tout le monde n'a pas ce talent.
J'ai tous les talents. Oui.
On écrit.
D'autres questions ?
Est-ce qu'on écrit d'abord pour soi, ouais, et après il se trouve qu'il y a une bande qui se constitue et donc le pour soi devient pour vous aussi et on y va tous ensemble ? Parce que tous les comédiens n'ont pas le talent d'auteur, donc certains se retrouvent peut-être dans votre écriture.
Oui, puis on écrit. Au début, j'ai commencé par écrire pour. C'était une façon d'aller à l'autre. C'est pas pour arriver et faire des rencontres dans le métier en disant j'aimerais faire ce métier quand parfois il y a des jeunes comédiens qui viennent nous voir en disant on aimerait faire ce métier mais pourquoi tu veux le faire, on sait toujours pas. La façon, écrire pour l'autre, c'est une formule de politesse pour déjà rentrer en contact avec une proposition. Donc c'est, j'ai bien compris que tout seul, on n'était pas grand-chose. Donc j'ai commencé à écrire et pour les autres, et j'ai démarré très jeune. Je me rappelle à l'époque, j'écrivais pour même pour le petit théâtre de Bouvard, il y a très très longtemps. C'était quand on faisait encore des télés en bois avec des comédiens en mousse. Et c'était une façon toujours de vraiment. Et quand j'ai même, quand on s'est rencontré avec Nagui, c'était toujours par le biais de cette écriture, de cette proposition. Après, ensemble, on a réfléchi à faire d'autres choses. On a initié une série à Canal+. Ça vient de l'écriture. C'est le nerf de la guerre. Et encore aujourd'hui, c'est l'écriture qui me fait tenir droit et qui me fait me sentir parfois, parce qu'on fait un métier quand même, c'est un peu la douche écossaise. Il y a des fois, on est malmené, on est bousculé, ouais. Puis parfois notre ego en prend un coup. Donc finalement, l'écriture permet de maintenir, j'allais dire, une certaine forme d'équilibre pour éviter de tomber. C'est devenu mon tuteur.
En 2009, Anne Charrier, vous écoutiez Arcade Fire. Elle connaît les paroles par cœur. Elle chante bien d'ailleurs. Dans En attendant Beau Jungles,
elle est ultra ultra pointue en musique. Mais vraiment, hein. Elle est très pointue.
Non mais vous chantez super bien. Je viens de réaliser que je vous ai tout dit sauf ça dans les compliments. Non mais c'est vrai, vous chantez bien. Donc, et surtout, vous débarquez à la télé.
Oui, avec Mes Amis, Mes Amours, Mes Emmerdes. Une série qui est diffusée sur TF1.
Ouais.
Et vous restez, je crois, 2 saisons.
Ouais.
Et après, vous dites au revoir.
Malgré le succès.
Ouais.
Parce que Maison Close, parce que voilà, j'allais faire Maison Close.
Sur Canal.
Il fallait faire un choix dans le timing. Les 2 saisons allaient se tourner en même temps. Et que... Et c'est vrai, le personnage de Vera me
dans Maison Close, la
m'intéressait prostituée. Davantage. Ouais. Enfin, c'est terrible de dire ça parce que c'est dénigrer l'autre, mais en même temps, il y avait des enjeux plus forts, quelque chose de plus fort à défendre.
On peut pas passer à côté d'un rôle.
Voilà.
C'est ça.
Non, il faut.
C'est le rôle qui vous a appelé. Vous
avez il faut faire des choix. Ouais. Et à certains moments, et voilà, il faut les faire en son âme et conscience. Et effectivement, à ce moment-là, la question s'est posée de choisir une série qui faisait 7 millions et une série qui n'en faisait qu'un. Et en même temps, moi, mon métier, c'est de jouer. Et il faut une matière. Enfin, et voilà, et j'ai choisi la matière. C'était un super rôle, hein, Mes Amis, Mes Amours. On s'est éclaté. J'ai adoré cette équipe. C'était un rôle de comédie, elle était très drôle, mais voilà.
Vous n'avez pas fait le choix du confort de la vie et aussi de la comédienne, parce que dans Maison Close, Vera est une prostituée. J'imagine que vos parents ont dû être un peu, comment dire, inquiets.
Fier.
Non, alors c'est marrant parce que moi j'avais hyper peur du retour à la vraie vie et qu'on dise c'est elle qui fait la pute sur Canal. Et en fait, j'ai prévenu mes parents en leur disant attention, après la diffusion, ça va être un petit peu, on vient d'un tout petit village. Ma mère m'a dit oh, moi chérie, je t'ai vue morte maintenant. Alors bon. Les trucs à la télé que j'avais fait, on commençait sur un corps mort et c'était moi. Et ça l'a. Elle m'a dit oh non, c'est pas. Et pareil, mon père a été très. Voilà, c'est un métier maintenant.
Pascal Elbé, dans ces années-là, vous écoutiez M.
Tout seul dans l'arène, je suis le roi des ombres. Tout seul dans l'arène, je me suis perdu.
Et en 2009, pour Pascal Elbé,
c'est Tête de Turc, un film que j'adore, vraiment. Très très beau film, avec Roche Dizem. Vous avez été nommé au César, dans la catégorie meilleur premier film. Vous avez eu un vrai succès d'estime, un succès populaire avec ce film. L'écriture qui se prolonge pour se faire son espace à soi. Les envies de réalisation, elles étaient là depuis très longtemps.
Oui, parce qu'en général, quand on écrit, on visualise les choses. On n'est pas des. Moi, je n'ai pas la prétention d'être un romancier ou un réel auteur. On est des scénaristes. On fabrique des histoires. Et en fait, quand on les fabrique, on assemble des images. Et un jour, j'ai voulu, comme j'ai souvent accompagné, on parlait de Roche Dizem avec son premier film aussi, qui était Mauvaise Foi. Et Michel Boujenah, Père et Fils.
Ouais, Père et Fils, voilà, c'est formidable.
Donc un jour, on décide de faire ses propres erreurs. Parce qu'évidemment, on a toujours un sentiment. particulier quand on écrit, quand on voit le résultat à l'image, il y a toujours
une trahison. Tout à l'heure, Anne Charrier parlait de trahison entre le roman écrit par Michel Jussy et le résultat, mais accepté, évidemment une trahison acceptée par les auteurs qui se font adapter. Un scénariste, quand il voit ce qu'il a écrit par l'œil d'un autre, il y a aussi un décalage.
Oui, il y a un décalage, parfois en mieux d'ailleurs, et parfois en différent, et j'aurais pas la prétention de dire en moins bien, mais en différent. Et un jour, on se dit, bon ben, je crois que je suis prêt aussi, moi, à passer de l'autre côté de la caméra. Mais c'est vrai, quand on adapte, on demande à l'auteur d'accepter d'être trahi, parce que c'est pour restituer quelque chose à l'image. Parfois, eh ben, il faut un peu travestir la réalité. C'est le résultat.
En 2015, Anne Charrier, écoutez.
Attends. C'est pas concert, il n'y a pas longtemps.
C'est pointu, hein?
Ouais.
Ça, c'est Savage.
Bah oui, c'est pointu.
Ouais,
ça passe pas, alors, ça passe pas à la radio tous les jours.
Camille, la chanteuse et charentaise aussi. c'est Jane, de John et Jane, qui est un duo. Ils se sont exportés, maintenant ils sont en Angleterre. Et j'écoutais ça sur le tournage du film de Pascal.
Je compte sur vous.
Je compte sur vous, en même temps qu'un morceau de Joy Division qui s'appelle Digital, parce que le personnage que j'interprétais dans le film de Pascal était en syntaxe error en permanence, parce qu'elle comprenait, elle était prise en étau dans une situation qui la dépassait totalement. Et voilà, c'est ce que j'écoutais juste avant les scènes, parce que c'est une musique qui est un peu épileptique comme ça.
Est-ce que comme les joueurs de foot qui ont un casque sur les oreilles pour rentrer sur le terrain, ou même les nageurs aussi aux Jeux Olympiques, souvent comme ça, se conditionnent avec une musique, vous avez besoin de ça aussi pour vous conditionner pour un rôle, quel que soit le rôle.
Moi, quand même très régulièrement. Alors moins sur quelque chose comme Maman a tort, parce que c'est moins éprouvant. Mais quand il faut aller très très vite et très fort dans des émotions extrêmes,
vous mettez dans un état particulier grâce à la musique.
La musique, c'est le média qui vous amène le plus vite aux larmes, à l'hystérie, enfin voilà.
Oui, là vous incarniez, je crois, dans Je compte sur vous, une banquière, en tout cas qui avait fini par lâcher de l'argent, escroqué par ce personnage complètement magnifique, qui était mais incroyable, quoi, qui appelait, qui arrivait à détourner des sommes mais colossales. C'était de l'escroquerie, mais avec une sorte de manipulation mentale complètement insensée.
Comme Nagui sur France 2.
Et je vous revois très bien dans cette scène de syncope, quoi, une scène de panique absolue.
Elle sait plus, voilà. Et c'est vrai que la musique, ça aide à ça. Ça aide à amener le cœur, en fait. Ça part du cœur et du souffle.
Mais c'est une vraie actrice, Anne, parce qu'elle a ces petits secrets, elle, pour arriver à une émotion dans un personnage. Et moi, j'ai rencontré Anne il y a quelques années dans un film où elle avait deux scènes. Elle jouait la sœur, c'était Riff, je crois, avec Yvan Attal. Et je me rappelle de cette rencontre. En deux scènes, quand j'avais vu le film, je n'avais pas vraiment réalisé sur le plateau. Évidemment, il y avait quelqu'un, mais on avait des scènes où on était un peu dans la distance, et en voyant le film, je me suis dit, merde, cette fille-là, en deux scènes, je crois à 100% que c'est la sœur de l'héroïne qui est maltraitée, c'est quand même beau quand à un moment donné, c'est les acteurs, et là, je rends hommage aussi aux autres acteurs, parce que d'arriver à nous faire partager cette émotion-là avec ses petits secrets, et elle touche à chaque fois juste, je rends hommage à Anne, qui est c'est un très très bel outil pour un metteur en scène.
C'est une très bonne comédienne, c'est clair.
Pour l'anecdote, sur ce film Riff, on avait une scène en commun. Et Pascal m'a dit, donc c'est 5 ans avant Je compte sur vous, Pascal m'a dit, je vais réaliser un film et tu en seras. Et je me suis dit,
mytho.
Ok, on passe à autre chose. Et 5 ans plus tard, il m'appelait pour,
C'est un homme de parole, en tout cas, et fidèle.
Je rends hommage à Pascal.
Sébastien Boller, merci d'être à ce micro. Sébastien, vous êtes ancien élève de l'École Polytechnique, spécialiste en neurobiologie moléculaire. On parlait des souvenirs d'enfants et à quand peut mécaniquement, j'ai envie de dire, remonter nos premiers souvenirs d'enfants.
Oui, c'est quelque chose qu'on peut étudier effectivement en laboratoire. Il y a des expériences très amusantes. Par exemple, on vous demande, je sais pas quel âge vous avez, mais essayez de vous souvenir quand vous aviez, mettons, 35 ans.
Bah, il les a, donc ça tombe bien.
Il les a même plusieurs fois.
Ça, c'est pas difficile.
Recule un petit peu, 30 ans, essayez de noter le plus de souvenirs que vous pouvez avoir de cette période.
Non, mais j'entends, mais comment, voilà. comment distinguer le véritable souvenir de celui que l'on s'est peut-être construit par la famille, les photos, les vidéos maintenant.
Les récits.
Voilà, c'est ça. Et d'un coup, je me suis rendu compte que chaque fois qu'on me posait la question, je retrouvais une scène où j'avais 2-3 ans avec un tricycle rouge. Dans la salle à manger familiale, en train de tourner autour des chaises et de la table.
Et en fait, c'était Shining.
Et en fait, je me demande si c'est pas, parce que comme il y a une photo de cette scène, qui est quand même une photo en noir et blanc,
oui.
je me demande si c'est pas un discours tenu par la famille qui fait que c'est un souvenir.
C'est le gros problème des faux souvenirs. C'est quelque chose qui est maintenant très bien attesté scientifiquement.
D'où ma question, à partir de quand il est crédible d'avoir un vrai premier souvenir?
Bah, la période critique, le mur de l'amnésie infantile, c'est 2 ans. 2 ans, Freud l'avait déjà relevé à l'époque. Lui pensait que l'enfant n'avait pas de souvenirs avant l'âge de 2 ans parce que c'était en fait des souvenirs dont la connotation sexuelle était impossible à traiter pour son psychisme. C'était son interprétation. Après, on s'est rendu compte scientifiquement que c'était pas ça. Mais la barrière de 2 ans existe toujours. C'est très, très improbable de trouver un souvenir avant l'âge de 2 ans.
Dans la série, le psychologue dans Maman a tort dit que plus on est jeune, plus la mémoire est courte, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à 4 ans, on se souvient que d'une semaine, à 5 ans, de 15 jours, et ainsi de suite, et que la mémoire prend plus de capacité à retenir avec les années.
Bah, le cerveau de l'enfant est en pleine croissance. Donc il y a des millions de neurones qui sont créés par jour, des centaines de milliers de connexions à chaque seconde qui sont créées. Donc, s'il forme un souvenir, il y a une trace qui se forme dans ces neurones. Mais comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de neurones qui poussent à chaque instant, elle va être vite remplacée par autre chose, vite effacée, diluée.
C'est pour ça qu'on perd les souvenirs d'enfance?
Oui, c'est une des principales causes. L'autre cause, c'est qu'en fait, l'enfant, il doit se créer plusieurs types de mémoires. Il doit se souvenir de choses qui sont réellement arrivées et puis il doit se créer des connaissances sur le monde. Il doit apprendre que Paris est la capitale de la France.
Il va commencer à apprendre à écrire.
Il acquiert des connaissances. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il acquiert des connaissances en généralisant. C'est-à-dire que tous ces petits souvenirs d'événements ponctuels, il est obligé d'en tirer des points communs pour créer une connaissance, par exemple le concept de ville, à partir d'un certain nombre de souvenirs de villes réelles qu'il a eues. Et donc, il est obligé finalement d'agréger ces souvenirs ponctuels et de les effacer pour en créer un concept. Donc, cette généralisation crée aussi un phénomène d'oubli.
Est-ce qu'il y a une possibilité de ne pas l'oublier? Est-ce que, comme, là encore une fois, dans ce qui est évoqué dans le film par le psychologue, de répéter, comme de réviser, entre guillemets, ces souvenirs, ça aide les entretenir, à les retenir?
Alors, pour qu'un souvenir soit durable, il doit être en permanence ravivé et réencodé. C'est-à-dire, re-raconter. Il doit chaque fois y avoir une nouvelle trace qui est créée. Par exemple, par le discours, par le dialogue avec le parent, les enfants. Tu te souviens du jour où on allait au manège, alors l'enfant doit s'en souvenir. Si possible, il ne faut pas essayer d'influer sur sa narration, il faut que ce soit naturel. Mais à chaque fois qu'il va en parler, il va raffermir le souvenir. Au départ, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines.
Donc on peut, pardon. Oui, non, finissez.
Et puis, en le refaisant régulièrement, on peut peut-être amener le souvenir de ces 3 ans à durer pendant quelques années.
Mais est-ce qu'on peut le fausser?
Oui.
Bien sûr.
On peut même en créer, j'imagine, des souvenirs.
Oui, on peut créer des souvenirs. Bah, l'expérience la plus célèbre.
Tu te souviens quand t'étais heureux avec papa et maman?
mais moi, c'est souvent pour ça que je dis à mes camarades qui ont des jeunes enfants, on les emmenait pas en vacances avant 2 ans, ils s'en rappellent pas. C'est pas la peine de leur faire des voyages à Bamba, prendre l'avion dans des contrées inconnues, exotiques.
Tu les emmènes en tout cas.
Il s'en rappellera pas. Confiture pour les cochons, ces salopards.
Là, on sent le papa qui parle.
Ah oui, papa, qu'il y en a beaucoup.
Et le fait que vos enfants vous détestent, non, ça n'a pas joué par contre.
Bah, je me demande si on n'a pas ravivé quelque chose.
On peut créer des faux souvenirs.
On peut créer, ça a été fait même en laboratoire. Par exemple, on demandait à des gens de ramener un album photo de leur enfance. Et puis, on glissait une photo en plus. Voilà. Et puis ils regardaient l'album photo et puis au bout d'un moment ils disaient oui, je me souviens de ce moment. Ils construisaient tout un discours autour, ils étaient persuadés que c'était arrivé. Ça s'est même fait dans les conditions d'interrogatoire dans les commissariats. On amenait des gens qui n'avaient absolument rien fait de répréhensible et puis peu à peu on les amenait d'abord on leur disait imaginez que vous ayez pointé ce pistolet sur cette personne. Alors, moi je veux bien imaginer pour le principe. Et puis revenez demain, on va en reparler. Et puis cette fois-ci, demandez-vous si ça aurait pas pu vraiment arriver. Et puis de fil en aiguille, et puis maintenant vous vous souvenez, ça s'est passé, les gens étaient persuadés.
Mais alors pardon, là vous amenez de l'eau au moulin à ceux qui font des agressions sur les enfants, et où la parole de l'adulte est souvent plus souvent prise en compte que la parole de l'enfant qui dit, je vous assure, qu'il m'a emmené dans ce coin de couloir, de garage, et qu'il m'a fait ci, qu'il m'a fait ça. Parole de l'enfant contre parole de l'adulte, capacité de retracer des souvenirs et d'avoir une bonne mémoire. Vous êtes psychologue, j'imagine que les policiers doivent être aussi, ou les juges, déstabilisés dans ce genre de situation, disant qui croire de l'adulte et de l'enfant.
La parole de l'enfant doit être prise au sérieux.
Mais là, vous venez de dire qu'on peut lui faire dire...
Mais les adultes aussi.
Ce qu'il faut vérifier, c'est qu'il n'y a pas eu d'influence extérieure qui ait pu parasiter justement la parole de l'enfant. Parce que dès qu'il y a une influence extérieure, elle peut être modifiée.
Mais l'enfant aime bien raconter des histoires. On appelle ça mentir quand on est un père ou une mère énervé. Mais lui, c'est juste raconter une histoire. On lui raconte des histoires en permanence, que ce soit la petite souris ou le Père Noël, puis d'un coup on lui demande la vérité pure et dure et de ne jamais mentir. C'est paradoxal.
Il y a la comparaison avec les éléments matériels d'une situation. Il faut systématiquement, aujourd'hui on le voit très très bien dans toutes les affaires de poursuites pour des affaires de harcèlement sexuel, de traumatisme de l'enfance qui remontent.
Il faut des preuves matérielles.
Il faut des indices convergents.
C'est ce que je dis, parole de l'enfant n'a pas le même poids que la parole de l'adulte, malheureusement.
La parole de l'adulte aussi, si elle n'a pas d'améliorement matériel, elle est sujette à caution aussi.
Je crains quand même que des juges y comptent plus souvent les adultes que les enfants dans ces cas-là.
Oui, ça reste très très difficile à trancher.
C'était le film, le film avec Jacques Brel et je ne sais plus comment s'appelait, le prof, le professeur. Où il était accusé d'avoir violé une étudiante qui était totalement. Mais c'était le combat entre la parole de l'enfant et la parole de l'adulte.
Oui.
Bon.
À une autre époque, en plus.
C'est vrai.
Réfléchissez pendant la nuit, revenez demain, nous en parler.
Lui, il aime manipuler ce genre de mécanisme. Les psys parlent de mémoire archaïque. C'est quoi la mémoire archaïque?
En fait, c'est pas vraiment un terme de science.
Pardon, on vient de me donner le titre du film de Jacques Brel, c'est Les risques du métier, c'est ça?
En gros, vous avez une mémoire.
Il était prof.
Une mémoire implicite, des choses dont vous pouvez vous rappeler consciemment. Ouais. Et puis, vous avez des choses que votre cerveau retient de façon complètement inconsciente, complètement implicite.
On a quoi? Une espèce de mémoire cachée dans un coin?
Oui, une mémoire inconsciente. Si vous avez, par exemple, été traumatisé tout petit, par quelque chose, une image qui s'est imprimée dans votre cerveau au moment où vous avez vécu une souffrance intense, ça va se graver dans des zones très profondes de votre cerveau qui sont pas forcément accessibles à votre conscience.
Et à quel moment elles peuvent rejaillir?
Dès qu'il y a un indice dans votre environnement qui vous rappelle l'événement traumatisant.
D'ailleurs,
Est-ce que la mémoire se transmet de génération en génération
avec
quand vous parlez
avec une clé USB?
Non, mais ça c'est important, ça c'est un truc
quand
que...
quand vous parlez de mémoire archaïque d'une souffrance, est-ce que je peux hériter d'une souffrance qui n'est pas celle que j'ai vécue moi, mais que ma grand-mère ou mon grand-père aurait pu ou mes parents auraient pu subir?
Voilà, ça c'est très 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 difficile à affirmer, mais une
il y a des
mère,
témoignages
par exemple,
comme ça, il y a des témoignages où on a des gens disent avoir des souvenirs très précis, très détaillés d'une scène qui ne leur est pas arrivée, mais qui est arrivée à un grand-parent, sans pour autant qu'il y ait de transmission orale.
Non, ça je peux pas scientifiquement appuyer ce genre de déclaration. Par contre, un parent qui a vécu un traumatisme et qui est avec son enfant au moment où quelque chose fait ressurgir ce traumatisme, l'enfant qui voit son parent être en train de paniquer va ressentir la panique et effectivement, là,
faire un
phénomène émotionnel va aussi paniquer et donc peut associer son propre sentiment de peur à l'environnement présent à ce moment-là. D'accord. Donc il peut avoir une transmission de peur, de phobie par exemple, mais sans contenu aussi précis que celui que vous mentionnez.
Oui, genre, si la maman a peur des araignées, elle peut faire naître une peur des araignées chez l'enfant, alors que l'enfant n'avait rien
tout
contre.
Tout à fait. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait possible et très vrai.
Sébastien Boller, vous signez chez Robert Laffont, après Neuroland, votre précédent ouvrage, L'homme qui haïssait le bien, on pourrait opérer les criminels.
Oui, alors ça c'est la question des grands psychopathes qui, on s'aperçoit qu'ils ont un cerveau qui est fait très différemment. Et l'idée du roman, qui repose sur des recherches qui ont véritablement lieu, c'est d'essayer de reconnecter ce qui ne va pas dans le cerveau des psychopathes pour leur refaire sentir de la compassion.
Bonne idée, une solution. Voilà.
Vous aimeriez, puisque vous êtes auteur de genre de roman, vous retrouver dans une auteur de série.
Tout à fait.
Aussi.
Oui. Oui, je pense que c'est un filon pour la série télévisée. L'univers des recherches sur le cerveau, je crois que c'est en train d'arriver d'ailleurs. Ça permet des intrigues qui sont.
Mais il y a une série formidable là-dessus qui s'appelle Mindhunters, sont les premiers. Ils appelaient ça les tueurs à séquence, les tueurs en série.
Oui.
Et donc c'est la première fois qu'on comprend que sans mobile apparent, quelqu'un peut tuer plusieurs personnes complètement de milieux différents, sans aucun rapport les unes entre les autres. Et c'est la première fois qu'on se dit, tiens, un être humain peut s'attaquer à plusieurs proies comme ça sans aucun rapport. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est la série est très ambitieuse. Je crois que c'est David Lynch, David Fincher. Et rentrer dans le mécanisme, dans la tête de quelqu'un. Et en général, la récurrence, c'est que la plupart du temps, c'est le rapport avec la mère. En tout cas, dans cette série.
Encore les femmes.
Encore de la faute des mères.
C'est vrai que c'est un sujet, en tout cas, c'est passionnant. C'est passionnant. Comprendre.
Merci Sébastien Boller d'être venu à ce micro nous éclairer. Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Bonjour Tanguy. La Grande-Bretagne va vibrer pour son petit prince et c'est demain.
Et oui, parce qu'on a enfin réussi à le caser, ce gros lourd qui a passé 20 piges tout nu à Vegas à jouer au jeu de la vache qui tâche à 4 grammes. L'élu s'appelle Meghan Markle. Elle est actrice métisse divorcée. Donc je pense que Dieu va punir le Royaume-Uni en noyant sous des trompes d'eau. Mais ils s'en foutent parce que là-bas, ils appellent ça une belle éclaircie.
Très bien. À suivre dans la deuxième partie de cette émission, je le rappelle, Anne Charrier et Pascal Elbé sont nos invités. On parle de Maman à tort, la série événement qui débarque sur France 2 mercredi prochain à 20h50. C'est la bande originale avec Leïla Kadoboudali, Marina Rollman, Tom Villa, Tanguy Pastureau, Daniel Morin, et nos invités Anne Charrier, Pascal Elbé.
Bonjour.
Avec cette série Maman à tort, deux intrigues, c'est le point de départ en tout cas, deux intrigues dans cette série, un cambriolage avec des voleurs en cavale, et vous êtes tous les deux policières et policiers, commandantes, ça c'est votre rôle, Anne Charrier, j'ai même plus votre grade en tête. Pascal
Elle est en dessous.
Mulet. Il est en dessous, il est juste en dessous.
Il s'est fait coiffer
Sur le poteau.
Sur le poteau pour le poste.
Sans lui en vouloir.
Il l'a laissé passer. Il se dit, non mais poussé. De toute façon, elle, pour elle, ça compte. C'est un chien fou, il vaut mieux qu'elle passe devant, elle va me fatiguer.
Ouais, c'est bien de jouer les personnages un peu comme ça.
En retrait.
Oui, en retrait, c'est bien.
Et en observation, puisque vous n'êtes pas dans un... comment s'appellent les bureaux où il n'y a pas de cloison?
Open space.
Merci. Ouais. Vous n'êtes pas dans un open space.
C'est mieux en fait un bureau sans cloison qu'open space.
Ouais, autant le dire en français, tu as raison. Mais tout est vitré et il y a beaucoup de regards, beaucoup d'échanges, beaucoup de silence. Tout n'est pas forcément dans le dialogue, ça peut être aussi dans le jeu et l'interprétation.
Exactement, ça c'est tout le talent de François Bell, c'est de nous laisser cet espace-là au montage, ce qui fait que, vous savez, Lino Ventura, regardez la carrière de Lino qui est un acteur formidable, mais...
Il n'a pas eu beaucoup de lignes, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il savait jouer des silences et des regards, mais surtout, on les maintenait au montage. Ouais. C'est-à-dire que c'est la force de Leno, c'est beaucoup dans le regard et le silence. Si on montait tout cut, ça veut dire au moment même où il parle, et ce ne serait pas Leno Ventura. C'est François Vell à ce talent-là, évidemment.
Ouais. Et dans Maman à tort, deux intrigues, à la fois les voyous en cavale après avoir dévalisé une bijouterie à Deauville, et de l'autre côté, ce petit enfant joué par Tom Dordano, qui s'appelle Malone dans la série, qui a à peine 4 ans, qui fait des dessins qui peuvent faire flipper pas que des psychologues, je veux dire, n'importe quel être humain, vous, quand vous verrez la série, vous pouvez flipper en voyant les dessins, parce qu'ils sont torturés, on sent que tout n'est pas simple dans son esprit. Il dit que sa maman n'est pas sa vraie maman, que son papa n'est pas son vrai papa, qu'il a une deuxième maman quelque part qui est partie dans une fusée. Alors, est-ce qu'elle est partie dans une fusée? Est-ce qu'elle est au ciel? Est-ce qu'elle est morte? Quelle est l'image qu'il emploie? C'est ce que vous allez découvrir au fur et à mesure des épisodes, mais il y a deux intrigues et on est presque au bord de la science-fiction aussi avec son imaginaire, avec les carreaux des vitres qui prennent une autre forme dès l'instant où il pleut.
Moi, je trouve que c'est l'intérêt aussi de la série, c'est qu'il y a un grand mystère autour de tout ça. C'est qu'on ne sait pas dans quoi ça va partir sur les deux premiers épisodes. On ne sait pas si c'est du paranormal, si c'est...
On a déjà un éclairage. Il ne faut pas rater les deux premiers quand même, parce que déjà dans le deuxième épisode, on a un éclairage assez rapide sur l'enchevêtrement dont tout va se lier.
Ouais. Et puis, il y a cet enfant. Vraiment, je reviens sur Tom, c'est que le regard, l'évidence avec lequel il assène à sa maman en lui disant « mais je t'aime ». Mais t'es pas ma vraie maman. C'est comme ça.
Dès qu'elle se met à pleurer, il la prend dans ses bras en disant « Je ne veux pas que tu pleures. »
Je veux pas que tu pleures et je veux bien rester avec toi jusqu'à ce que maman vienne me chercher. Ouais.
C'est terrible parce qu'elle est d'une sincérité absolue et on doute, on se dit mais... Quand elle regarde son fils, elle regarde son fils, elle regarde pas quelqu'un d'autre. Et ce gamin qui est avec sa sincérité d'enfant, on se dit « Mais alors, qu'est-ce qui se passe ?» C'est vrai que c'est très intriguant.
C'est donc mercredi prochain à 20h55 sur France 2, Maman à tort. Et Tanguy Pastureau a raison.
À toujours.
Tanguy, c'est demain donc que le prince Harry épouse Meghan Markle.
Oui, et ce dans l'indifférence générale en France, parce qu'on n'a pas tué nos monarques pour se taper ceux des autres. En 1793, il n'y avait pas de vegan, un type est passé par là, a pris Louis XVI pour un salami, a aidé une dame, je vous en mets combien, et l'a tranché en deux, avant que le peuple ne zigouille tous les gonds à particules. Si la terreur sévissait encore aujourd'hui, Dominique de Villepin et Eddie de Préto auraient la tête au bout d'une pique. Et France Inter serait obligée d'appeler Juliette Armanet pour lui demander « Bébé, t'as pas une sœur qui elle aussi chante comme Véronique Sanson parce qu'on a un trou dans la prog ?» Mais même en Grande-Bretagne, ce pays qui nous a donné Black Sabbath, Siouxsie and the Banshees, mais aussi des groupes plus fun comme The Cure. 66% des Anglais, d'après un sondage, n'en ont rien à carrer du mariage du petit prince roux. Son frère William a saturé les médias. Il s'est marié, a eu un enfant, a perdu ses cheveux parce qu'il a eu un enfant, donc des soucis. Des joies aussi, mais des soucis. Une fois chauve, il s'est dit « J'ai plus rien à perdre, viens là Catounette que je t'en fasse un deuxième. Veux-tu le voir mon sceptre ?» Enfin des trucs grivois que disent les princes. Il en a eu un autre, puis un troisième. Il se reproduit comme une paysanne albanaise en 1910. Donc les Anglais en ont marre de voir la famille royale pondre au même rythme que les poules de Macron qu'il a dans son jardin. Le moindre reportage là-bas sur un type qui crie « Je suis un gueux », ça fait 100% de part de marché. Comme chez nous, téléfoot si Lisa Razou invitée venait à poil. Tellement ils n'en peuvent plus d'Elisabeth, la vieille gitane qui vit avec ses 12 chiens et de toute sa clique. Du coup, Harry, qui passe après, mais les types s'en tamponnent comme Éric Zemmour de l'anniversaire de Karl Marx. Et pourtant, la fête va être grandiose, estimée à 35 millions d'euros. 300 000 pour la bouffe, 200 000 pour les boissons. Normalement, une fête en Angleterre, c'est l'inverse. Hein, 90% dans le budget boisson, puis les gens régurgitent, ravalent leur vomi, ça fait les protéines. Là-bas, l'anglais déchiré se tient. Pas comme chez nous, où Mathilde Seigné, après juste un picon bière, cherche à garer sa voiture dans le mur. Et c'est un gros événement people. Hein, là, même si Paul Naref décède, étouffé par ses cheveux qu'un vent contraire lui aura collé dans la bouche, Paris Match titrera sur Harry. Il faut pas mourir ce week-end. Tenez bon, VGE, Peter Doherty, Kim Kardashian, parce qu'il y a bien un moment où ça va exploser.
Bon, pour revenir au mariage, il y a une cohorte de stars invitées, j'imagine.
Mais oui, il va y avoir de la star au kilo. La reine, la mamie de Harry, sera là, bien sûr. Elle hésite entre son chapeau orange avec des mouettes ou son tailleur jaune pétant. Quand elle croise un fantôme dans son château, celui-ci se met à hurler « Putain, c'est Pac-Man hein !» Et il se taille en courant. Il y aura Elton John, qui avait chanté lors des obsèques de Diana. Lui, dans la famille, il fait tout. Les mariages, les décès, les anniversaires. Pas les bar mitzvahs, parce que là-dedans, il n'y a pas un juif. Alain Soral l'attend déjà devant la porte pour entrer. Sting sera là, mais aussi Victoria et David Beckham, les mannequins slip terminés à la cire chaude. Il y aura Serena Williams, joueuse de tennis dont le bras fait 4 fois la taille de ma cuisse. Si c'est elle qui coupe le gâteau, ça va être un carnage. Doria, la mère de Meghan, sera là. Oui, Doria. Et ce sera la seule de la famille, hein, parce que son père a fait une crise cardiaque au Mexique, où il vit. Il a été opéré, on lui a mis une pile comme au lapin Duracell, 2 jours qu'il joue du tambour, mais il a interdiction de prendre l'avion. Et le père précise que son cœur a lâché à la suite d'une lettre du frère de Meghan, suppliant Harry de ne pas épouser sa sœur. Selon lui, une personne ignoble qui a laissé sa famille dans la misère alors qu'elle empochait le pognon à Hollywood. Ils l'ont prise pour la CAF, ses assistés. Mais moi, j'ai fait pareil. Radio France me verse une blinde, mais toute ma famille vit au camping municipal de Landerneau. Ça va, quoi, qu'il se bouge lui, qu'on est sous Macron ou pas. Et la sœur de Meghan est fâchée aussi. Bref, il n'y aura que la mère et en face, Elisabeth II et toute la famille II. Hein, il va falloir se battre pour exister. Si la daronne chante pas la pitchouli en slip debout sur la table, personne ne va la voir. Alors, pour l'anecdote, vous qui ne connaissez rien en roi, c'était autre chose quand je bossais avec Stéphane Bern. Ah, ben dans le bouquet de la mariée, il y aura de la myrte, hein, l'herbe de l'amour, contrairement au thym qui est l'herbe du barbecue. Hein, c'est ce truc que dans toute la famille, un type sait super bien faire. Hein, en général, il ne sait faire que ça. Donc, on le laisse, on lui dit bravo, tonton, tes merguez, elles sont top. Il est très content et on a envie de lui offrir un voyage à Punta Cana en jet privé, tellement il fait pitié. Bien sûr, la famille royale britannique ne sait pas ce qu'est un barbecue, hein, puisqu'ils ne font rien eux-mêmes, ils ont des domestiques. Harry, la seule chose qu'il ait faite de ses mains, c'est en 2014 des mots mêlés. Alors pour le mariage, un manuel de 7 pages, et c'est véridique, a été distribué aux invités afin qu'ils respectent le protocole. Hein, par exemple, on ne doit pas offrir de cadeaux aux mariés.
C'est pour ça qu'on rêve tous de se farcir ce type de mariage, plutôt que celui de son arrière-cousine à la con, qui sur sa liste a un service à thé introuvable. Et il est possible d'aller au WC, mais seulement de 9h à 11h le matin. Si après vous avez envie, seule solution, piquer le chapeau d'Elisabeth et pisser entre les mouettes. Alors nos rois à nous, eh ben, malheureusement, ont mal choisi leur époque. Avec Nicole Belloubet, ils prenaient juste des travaux d'intérêt général au lieu de la guillotine. Pas de bol.
Merci, Tony Bossio.
Sur France Inter.
Maman a tort, cette série qui débarque pendant 3 mercredis sur France 2 à partir de mercredi prochain le 23 à 20h55. Une série où jouer avec des enfants, on dit souvent à des comédiens que jouer avec des enfants c'est difficile. Vous avez souligné le talent de Tom Marlon. C'est vrai que c'est troublant de jouer avec un enfant.
Ouais, ouais, parce qu'il faut être, ça demande plus de concentration parce que c'est lui qu'il faut mettre en confiance et qu'il faut qu'il donne le maximum. Donc, mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on s'oublie, on se regarde moins. On est dans un lâcher-prise plus grand. Il se trouve, pour faire une parenthèse, que Tom était particulièrement facile comme enfant, qu'il avait envie d'être là, vraiment très envie, que c'est un souhait de sa part.
Mais c'est fou,
c'est un enfant qui rêve d'être comédien.
Ah ouais, c'est fou.
Et qu'il disait à sa mère quand ils ont voulu l'inscrire au théâtre à 2 ans.
C'est dingue, ça.
Et on leur a dit, bah non, il est trop petit. Et donc là, il a commencé à.
Attendez qu'il soit propre. On se dit, des comédiens pas propres,
c'est il y en
a
ça, déjà non,
pas
non,
mal.
Ouais, c'est pas. Plat,
hein. On en reçoit ici même, quelquefois.
Vous parlez pour Pascal, c'est pas sympa.
Ouais, bah on a des oublis.
C'est vraiment pas sympa.
Excusez-moi.
On voilà. Juge pas. Hein. En même temps, c'est beaucoup de pression là pour moi.
Non,
c'est
mais Tom était, pour le coup, Tom était propre.
Non.
Pardon, Anne.
Pour le coup, Tom était propre. Ouais, on a Tom eu cette chance.
Tom était propre. Pascal aussi. Et bon, dans une série comme ça, est-ce que vous tournez dans l'ordre de l'histoire? Parce qu'il y a un crescendo, il y a une montée en puissance, que ce soit dans vos histoires personnelles, privées ou dans l'intrigue. Ou est-ce que c'est pour minimiser les coûts en fonction des décors et des plannings de tournage, bouleverse l'histoire?
Ouais, je sais pas quelle production pourrait se permettre de tourner.
Il y en a.
Oui, il y en a, mais là, il y a énormément de décors. L'économie faisait qu'on était.
Et ça, c'est troublant.
On a l'habitude, non, je peux pas vous dire que ce soit troublant, faut travailler quoi. Faut être faut être au taquet, mais bon, c'est un travail quand même.
Il faut rappeler que c'est un métier, voilà. Exactement, que c'est un travail. Dans cette série, il y a donc le sujet de cet enfant, a-t-il de véritables souvenirs, sont-ils recréés par d'autres? Ça fait partie de l'intrigue. Est-il manipulé, est-il kidnappé comme dit le psychologue dès le premier épisode? Je ne divulgâche rien. C'est la question qui est posée, et tout cela en parallèle avec une enquête policière, une véritable intrigue à partir du roman de Michel Bussy, et puis portée par Tom Dornano, vous l'avez dit, et puis Anne Charrier, Pascal Elbé, autrement dit de magnifiques comédiens. Ça donne une émission passionnante, on est d'accord, Daniel Morin, et c'est un plaisir renouvelé.
Mais non, fermez-la, silence, silencio, callate. Cabron. Non, par pitié, physiquement, fermez-la, s'il vous plaît, monsieur Guy, joignez vos lèvres et paralysez-les. Ah, oh, vous allez me flinguer, monsieur Guy. Et contrairement à Marina Rollman, taisez-vous. Contrairement à Marina, j'ai aucune raison de crever. Et que les souvenirs, c'est important pour les offres. On va dire ça au voisin de Marc Dutroux. Et que c'est un plaisir renouvelé, mes merdes. Retenez-moi autour de cette table. Je vais finir par le massacrer, ce monsieur Guy, le petit homme au regard de satire, au physique de troll et aux idées tièdes. Apportez-moi des idées fraîches, merde! Et en parlant de fraîcheur, ce serait pas mal si on pensait un petit peu à renouveler nos invités, hein, Nagui? Pascal Elbé, il est venu combien de fois dans cette émission?
Pas
10?
Pas
20? 100 fois? Hein? Et que je lui mouille la compresse, et que je me souviens du film qu'on avait tourné ensemble, et des scénars qu'on avait écrits. Je suis fatigué, je le croise tellement, Pascal Elbé, j'ai l'impression qu'on est de la famille. Le 1er janvier dernier, je l'ai appelé pour lui souhaiter la bonne année. C'est ridicule. J'en parle tout le temps, j'ai sa photo, c'est beaucoup trop, ça suffit. Que dire d'Anne Charrier? Je la vois plus souvent que ma femme. J'ai l'impression qu'on a été mariés tous les deux. La dernière fois que j'ai croisé Anne Charrier, je lui ai filé un billet de 100 euros. Je lui ai dit, on n'est plus ensemble, ok, mais prends ça quand même, achète une glace au gosse. Bah, c'est ridicule.
C'est pas vrai, j'attends.
Ça fait cher la glace surtout.
Ah, je me fous pas de sa gueule, attends. En tournant rond, monsieur Guy, c'est le serpent qui se mord la queue. Et même si je sais que c'est une acrobatie qui vous vous tente, ce n'est pas constructif. C'est quoi le niveau après? On invite les anciens collaborateurs, comme Philippe Labro, qui va nous raconter qu'avant d'être un journaliste de génie, un réalisateur de chefs-d'œuvre, un écrivain digne de la Pléiade, peu de gens le savent, mais avant c'était une femme qui avait un cul d'enfer, et que la période la plus heureuse de sa vie, c'est quand il était serveuse topless dans un Buffalo Grill sur une aire d'autoroute bosniaque.
Et bien, il sera là vendredi prochain.
Celui qu'on appelait Olga la Gourmande. Non, monsieur Guy, les souvenirs, le passé, les auditeurs d'Europe 1, tout ça, c'est terminé, fini, on oublie, on passe à autre chose. Désolé, mais une fois de plus, mon pauvre monsieur Guy, vous avez dit
N'importe quoi. La bande originale avec Nagui. Alors, on a parlé de Maman a tort et on vous encourage à voir cette série. Parlons de l'avenir, Anne Charrier, puisque vous arrêtez demain soir de jouer en attendant Bojangles, qui se poursuivra avec une autre distribution toujours au théâtre de la Pépinière. Et on vous encourage à voir la pièce qui est formidablement bien écrite et interprétée aussi. Et vous partez vers de nouveaux projets. Canard à l'orange.
On crée Canard à l'orange pour le Festival d'Anjou, mise en scène par Nicolas Briançon avec lui-même.
Avec lui-même. Tiens donc.
François-Vincent Tellier.
Tiens donc.
Alice Dufour. Toujours, Sophie Arthur.
Vous gardez vos quotas de beaux gosses dans la.
Ouais,
dans
le... j'aime bien.
Ouais.
Ouais, pourquoi se font. Pourquoi
s'ennuyer?
Non, et puis j'ai usé Pascal Elbé, ça y est, je passe à
comment
autre chose. Non, et on se retrouve avec François, Pascal en août.
François-Vincent Tellier est, au-delà d'être un bon comédien, est particulièrement un bel homme.
Tout à fait. Il sera vraiment mis à son avantage en plus sur cette pièce-là.
Il est très bon, et il excelle dans la cuisine, figurez-vous. Dans l'art culinaire, il paraît que c'est un champion.
Il est vraiment très fort.
Maître Queux, donc.
Maître Queux.
Voilà. Roy Lapoutre et Maître Queux.
Hashtag hard.
Oui, parce que ça qui va devenir une pièce
en septembre
également.
Belle pièce.
Voilà, ça s'est fait.
Et vous, Pascal Elbé, où en êtes-vous de vos projets?
Alors mes projets.
Rappelez-vous. Vous,
alors
votre
là, je m'apprête à tourner là tout de suite. Je sais pas. D'ailleurs, très vite, la saison 2 des Bracelets Rouges, parce qu'on parlait de série. Puis je vais.
Était formidable cette série.
Ouais, c'est génial.
Bah oui, c'était assez audacieux et gonflé.
Est-ce qu'il était prévu qu'il y ait une deuxième saison ou c'est le succès de la première qui a.
Non, parce qu'en réalité, c'est l'adaptation d'après ce que j'ai. Comprendre, c'est l'adaptation d'une série espagnole, donc qui a connu plusieurs saisons.
D'accord.
Et ce qui est la satisfaction, c'est qu'on a appris que dans beaucoup d'hôpitaux en France, les gamins regardaient cette.
Ouais.
C'est faire un petit peu œuvre utile, c'est bien. C'était vraiment un beau projet. Et puis après, je vais retrouver Anne.
Tiens donc.
Anne Charrier pour le cinéma, où nous avons tous les deux tourné sous la direction d'Olivier Barou avec Cadmérade. Et j'aurai l'occasion à ce moment-là de jouer un vieux gigolo avec Cad. Et tant que ça va être un projet, et avec Anne, je pense qu'on va beaucoup rigoler, c'est assez excitant. Voilà, et puis
Ça va s'appeler comment?
Ça va s'appeler Just Gigolo, je crois.
Voilà, je sais pas si le titre est définitif encore.
Just Gigolo.
Ah bah, et vous êtes un habitué des titres non définitifs, puisque vous étiez venu dans cette émission nous annoncer le titre de votre prochain film. Ça a visiblement changé. Vous en êtes à l'écriture, au montage, pour convaincre les producteurs, les diffuseurs, parce que c'est un parcours du combattant de faire un film.
Ah oui, c'est de partir d'une histoire, d'un sujet, et puis après ça allait convaincre beaucoup de personnes, arriver jusqu'au spectateur. C'est vrai que c'est un parcours du combattant. Là, en l'occurrence, c'est...
D'autant que vous l'écrivez, vous le réalisez, vous le produisez.
Ouais, et en plus je joue dedans, donc on parlerait pas de plus-value là à ce moment-là.
Économie de coût.
Mais on va pas non plus parler de moins-value, mais c'est donc j'ai fini, l'écriture est finie, il est en production et je vais commencer bientôt. Ben, préparer, mais c'est une comédie. On en reparlera, j'espère, pour ton plus grand plaisir. On en reparlera
clairement.
Et
qui est au casting?
Qui est pour l'instant justement, je viens de faire l'écriture, maintenant je vais à Anne Charrier évidemment, mais c'est pour l'instant non parce que il y a beaucoup de personnages, donc je vais appeler évidemment les camarades, mais pour l'instant c'est l'écriture qui est finie, puis après on va donner cher à tout ça. Ouais. Pour l'instant. Voilà, c'est un film qui commence à exister.
Mais c'est bizarre, pardon, de monter une production sans savoir qui va jouer dans le film. Comment convaincre les producteurs uniquement sur l'histoire? Il faut qu'elle soit extrêmement forte.
Ouais, c'est le cas, Nagui. Je crois que c'est un des films les plus forts de ces 35 dernières années.
Ah, la non-confiance en vous.
Ben, c'est ce qui me fait douter parfois.
Joli. Ah, oui. Et Anne Charrier, vous allez le retrouver, je parlais de Rushdie, vous allez le retrouver dans Persona non grata.
Oui, on est en train de tourner. Là, je les retrouve lundi.
avec, puisque vous n'aimez pas les beaux gosses, Raphaël Persona et Nicolas Duvauchel.
Ah ouais, oh,
Afia Herzi.
La purge. Faire, votre vie, hein.
La purge.
Proche dit. Oh non, mais franchement.
Trop, c'est trop.
Ouais.
Le film sortira quand?
Je vais monter le dialogue des Carmélites bientôt.
À Caspalès.
Non. Le film se termine. Le film se termine fin mai. Pour moi, il se termine le 28. Je vais terminer le
dernier jour de tournage.
Voilà.
Avec toujours cette tradition qui veut que lorsqu'une comédienne ou un comédien fait sa dernière scène, tout le plateau applaudit. Et c'était la dernière scène de et tout le monde applaudit.
Voilà.
Peut-être des cadeaux, je sais pas.
Une tradition de cadeaux ou pas ? Moult, je sais. Non, tout le monde applaudit. Et puis s'il y a une scène hyper importante derrière, tout le monde se barre très vite. En fait, ça reste très très.
C'est poli.
Ça fait partie du
folklore.
Est-ce que dans les séries, puisque on est un peu comme une troupe au théâtre, est-ce qu'il y a des traditions également ? Je sais qu'au théâtre, il y a des traditions de faire des cadeaux pour chaque comédien se font des petits cadeaux porte-bonheur un peu au début d'une histoire pour une série.
Non, les séries, non, on couche, c'est tout.
C'est plus direct.
Classique.
C'est une tradition, c'est vrai que c'est, on ne fait pas par plaisir personnel. C'est pas pour moi. Hein.
Non, il faut dire que sur cette série, on avait une équipe d'enfer. Et que par exemple, Gilles Alma allait cuisiner chez Pascal Elbé pour que le soir on se retrouve et qu'on prépare les scènes du lendemain.
C'est sympa.
Et donc voilà, on arrivait tous en sortant du tournage.
C'était convivial.
Et on avait, c'était hyper convivial. C'était très heureux.
Très bien. Vous nous avez pas dit ce que vous faisiez en septembre, parce que là vous avez beaucoup parlé de Canard à l'Orange. C'est à Avignon, mais c'est pour l'été.
C'est pour l'été. Moi, ensuite, je serai sur le film d'Olivier et en tournée avec En attendant Beau Jungles dans toute la France. Renseignez-vous.
C'est génial.
J'espère vous trouver le temps de venir nous en parler ici.
Des excuses à présenter, Daniel.
Je serai moi-même présent.
Mais bien sûr, désolé pour nos fidèles auditeurs habitués au professionnalisme de nos invités.
Et pas nos chroniqueurs.
Pas du tout, non, j'ai perdu un bout de langue. Et qui ce matin sont tombés sur un bon duo d'escrocs. Franchement, on a eu des voleurs, mais des comme vous rarement. Hein. Désolé pour tous les habitants du Havre qui ont été choqués par le mépris de Pascal Hébé à leur égard. Oh là là, quand il s'est permis de dire que le Havre, c'était pas New York, quel salaud, quel bobo.
Bah déjà, à la base, désolé pour les habitants du Havre.
En même temps, c'est le Havre. Hein. Désolé pour tous nos fidèles auditeurs qui nous écoutent ce matin et qui ont joué au jeu des premiers souvenirs et qui se sont replongés dans les douloureux souvenirs de la Première Guerre mondiale, des débuts télé de Nagui, de la collaboration, le premier pas sur la Lune, la mort de Michel Drucker, etc.
Oh.
Ah, voilà, beaucoup d'horreur.
Quelle horreur. Ceci étant, à propos de, du Havre, c'est... Non, mais il y a de très très belles images.
Moi, j'ai adoré le Havre.
Ah,
je dois le dire, on
moi
a
aussi
passé de très très bons moments au Havre et c'est une
on
ville
fait toujours
étonnante.
Des vannes autour du Havre, mais je ne savais pas que ça avait été reconstruit. Et finalement,
complètement.
C'est une ville magnifique.
En plus, je suis tombée pour les 50 ans, donc il devait y avoir plein d'événements culturels dans la
absolument
ville.
Absolument.
Ah, mais plein, il y a la boulangerie qui était ouverte jusqu'à
21h. Oui. Dans la culture, alors, c'est pas son truc.
Ils ont fait une promotion sur les crêpes sucrées salées.
Et la burrata.
La burrata.
Spécialité du Havre.
Caramel en voiture, voilà.
J'ai voyagé chez vous.
À un moment donné, j'ai cherché David Guetta partout, et c'est pas possible, il y a le feu dans cet endroit. Et puis vers 11h, on prend du Valium et puis on oublie.
Maman a tort. Heureusement qu'il n'y a pas de deuxième saison parce qu'ils ne vous auraient pas fait tourner là-bas.
Heureusement qu'on n'a pas écouté au Havre parce que là, sinon, on aurait perdu les auditeurs.
On les embrasse. Heureusement qu'ils ont de l'humour. Déjà, ils ont de l'humour. Ils vivent au Havre.
Est-ce qu'ils nous reçoivent Est-ce qu'ils nous entendent au moins au Havre là,
Je crois qu'on nous capte.
Non, okay. Je crois qu'il y a un mec qui met une radio très forte au Rouen. Du coup,
On a été très bien reçu, Camora.
Ça s'appelle Maman a tort et ça sera mercredi prochain sur France 2 à 20h50. Merci Anne Charrier, merci Pascal Elbé d'avoir été nos invités. Portez-vous bien, nous recevrons Pascal Arbillot et Olivia Cotte. Enfin des bons comédiennes et comédiens. Ça sera lundi pour la bande originale. Passez une bonne journée à suivre les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Merci, bonne journée.
Merci.